おかしいおかしい、
je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba à Kamanga.
Bonsoir. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption accuse les gouvernements et assemblées provinciaux de s'emparer de presque tous les fonds rétrocédés par le gouvernement central au détriment des entités territoriales décentralisées. La LICOCO s'est inspirée des chiffres fournis par la Cour des comptes. Quelles sont les preuves dont dispose cette Ligue pour dénoncer la pratique des autorités provinciales? Comment les entités territoriales décentralisées peuvent-elles entrer en possession de tous leurs fonds de rétrocession? C'est le sujet au centre de ce débat. Et comme invité, nous recevons Ernest Mpararo. Vous êtes président national de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Bonsoir, Ernest.
Bonsoir.
Voilà. Francis Mbengama, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir, monsieur le député.
Ouais, vous êtes député provincial. Et puis nous avons Maître Sidi Alimassi, il est expert au ministère de l'Intérieur et chef de section des questions juridiques et réformes institutionnelles. C'est à la cellule technique d'appui à la décentralisation du gouvernement central. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Alors, la LICOCO accuse les gouvernements et assemblées provinciaux de détourner tous les fonds rétrocédés aux entités territoriales décentralisées. D'après cette ONG basée à Kinshasa et qui cite la Cour des comptes, sur un total de plus de 48 milliards de francs congolais envoyés à toutes les provinces en 2007, 12% seulement ont été rétrocédés aux entités décentralisées. Et en 2008, sur plus de 127 milliards de francs congolais, les gouvernements provinciaux dans l'ensemble n'ont rétrocédé que 19%. Plus de détails de ce communiqué avec vous, Kéline Côté.
La province de Katanga est la seule qui, durant les deux dernières années, a rétrocédé près de 60% du montant reçu du gouvernement central aux différentes entités décentralisées de la province. Toujours selon ce rapport, vient en deuxième position la province orientale. En 2007, note la LICOCO, elle a rétrocédé environ 26%. En 2008, la rétrocession est passée à 31%. Soit une légère augmentation de 5%. La province de l'Équateur, troisième en 2007, avec une rétrocession chiffrée à environ 24%. Celle-ci va baisser jusqu'à 12% l'an dernier, ce qui lui a valu la quatrième place au profit de la province du Maniema. Puis viennent les provinces du Nord Kivu avec environ 9% l'an dernier, le Bandundu avec près de 6%, suivi du Kassai Occidental 5%, le Bas-Congo 3%. Le Kassai Oriental se place en 9e position avec près de 1%. Au bas de l'échelle se trouve la ville de Kinshasa et la province du Sud Kivu qui, selon ce rapport, ont rétrocédé à leurs entités décentralisées 0% des fonds reçus du gouvernement central.
Voilà, j'ai déjà salué Ernest Mpararo et Francis Mbengama, mais Guy Matin me dit que Maître Soudi est aussi en ligne. Bonsoir, Maître.
Bonsoir.
Voilà. Alors, je retourne directement vers vous, Ernest Mpararo. Vous êtes le président national de la LICOCO. Alors, vous avez des preuves pour publier ce tableau que j'ai entre mes mains?
Oui, la LICOCO possède des preuves. Ce tableau, nous l'avons reçu d'un rapport de la Cour des comptes déposé au bureau de l'Assemblée nationale.
C'est un rapport qui n'est pas encore officiel.
C'est un rapport officiel parce que c'est déjà déposé.
Parce que d'après les sources proches justement de la Cour des comptes, cette Cour dénonce un peu la manière dont vous avez publié ces chiffres. Parce que déjà, lorsqu'on prend le Katanga et le Sud Kivu, les tableaux nous montrent que c'est 0%. Donc, pour le commun mortel, quand on regarde, ça veut dire que l'hôtel de ville de Kinshasa et le gouverneur Muderwa et son équipe n'ont donné aucun franc aux entités territoriales.
Oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Dès que vous vous promenez sur Kinshasa, la ville est trop sale. Les routes sont dans les temps dans lesquels se trouvent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trous. Les gens n'ont pas d'eau. Dès que vous partez dans les communes, Angili par exemple, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qu'aux machines pour écrire. Les bureaux sont sointes. Lorsqu'il pleut, les officiers de la commune d'Angili ne peuvent pas aller au bureau. Si vous partez à Makala, c'est le même constat. Dès que vous partez en Sélé, le même constat. Donc, vous parlez, j'ai eu 10 coups de fil des différents bourgmestres qui m'ont précisé que, effectivement, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien reçu de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, le premier ministre, si vous vous souvenez, en 2007, il a fait une visite à Massina et à Kimbaseke, qui est à l'est de Kinshasa. Oui, il avait confirmé, effectivement, que le gouverneur ne rétrocède absolument rien.
Voilà. Nous avons quelqu'un qui va représenter, qui représente dans cette émission l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le député provincial, pardon, Francis Mbengama. Vous êtes d'accord avec les chiffres publiés par la Likoko?
Être d'accord, c'est un peu dire pour moi, parce que je suis de l'Assemblée, et aucun bourgmestre n'est venu se plaindre à l'Assemblée, puisque nous sommes l'organe délibérant et de contrôle, pour comprendre qu'il y a eu soit un détournement quelque part, soit il n'y a pas rétrocession. Il faut que les communes viennent se plaindre. Mm-hmm. Nous, en tant qu'organe de contrôle, nous allons vérifier d'abord l'information, soit créer directement des commissions d'enquête,
oui,
pour voir si réellement il y a eu détournement. Les fonds ne sont pas réellement rétrocédés.
Et comment vous expliquez que sur le tableau justement publié par la Likoko, tableau de rétrocession, c'est 0% au niveau de Kinshasa? Comment vous expliquez cela?
Je viens de voir le tableau, en ce qui concerne l'année 2007 et 2008.
Oui, c'est 0%, hein,
c'est
on
0%,
le voit.
En tout cas, je suis étonné. Mais sauf dernièrement, vers... Donc, au début de l'année 2009, le mois de janvier, tous les présidents des assemblées provinciales...
Pendant que vous parlez, je vous demandais d'éteindre vos téléphones, mais continuez, vous avez la parole. Donc, on vous disait que...
J'étais parti de la délégation de présidents des assemblées provinciales.
Oui.
J'étais parti voir l'excellence, monsieur le Premier ministre, pour discuter... de cette rétrocession. D'abord, on parle de rétrocession. Alors, c'était la retenue à la source, 40%.
Oui, tout le monde sait que la retenue n'est pas appliquée. Nous sommes au niveau de la rétrocession. Mais pourquoi c'est 0% de votre question? Vous ne répondez pas.
Non, c'est à cette rencontre-là que le Premier ministre nous confirma qu'il y a une rétrocession pour les ETD.
Donc, entité territoriale décentralisée.
Voilà. Mais c'était au mois de janvier de cette année où nous, l'Assemblée française de Kinshasa, a été informé que le gouvernorat devait rétrocéder la petite enveloppe-là, même aux ETD.
Bon, on va revenir à vous, parce que nous avons aussi Maître Soudi Alimassi. D'abord, votre premier commentaire, Maître.
Merci beaucoup. Je vais revenir peut-être après sur le principe de cette rétrocession-là, conformément à la Constitution et aux lois. Moi, je crois que le rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport légal et constitutionnel, qui est prévu par l'article 180 de la Constitution, où il est demandé à cette structure qui dépend principalement du Parlement d'établir un rapport sur la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que des comptes des provinces. Alors, si ce rapport a établi qui est cela, je pense que c'est aussi une réalité. C'est dans vos émissions que nous ne cessons de rappeler à l'ordre des assemblées provinciales. Il faut que les véritables contrôles s'exercent. Mais malheureusement, moi je suis parmi les rédacteurs de ces différentes lois, la libre administration des provinces et la loi sur les entités territoriales décentralisées. À l'époque, j'avais proposé, et l'honorable Tessanga, s'il me suit, il sait qu'on avait discuté là-dessus, qu'on puisse préaffecter les fonds de rétrocession. À l'époque, avant la promulgation de la Constitution du 18 février, les institutions relatives à la mise en œuvre du budget de l'État au niveau des provinces affectaient l'agence de la rétrocession aux dépenses d'investissement. Et il fallait qu'on puisse préaffecter cela dans la loi. Ce n'est pas ingéré dans la libre administration des provinces. Aujourd'hui, l'argent qui part en province en termes de rétrocession sert des frais de fonctionnement au niveau des provinces, alors que le développement local, la vraie décentralisation, c'est au niveau local, au niveau des entités territoriales décentralisées.
Oui, mais Maître Soudi, qu'est-ce que ça fait aussi préaffecter ces fonds? Ça veut dire quoi, simplement?
Ça veut dire, par exemple, on met un article dans la loi sur la libre administration des provinces qui dit que l'argent de la rétrocession est destiné aux dépenses d'investissement en province. Ça, c'est un point. Et l'autre point, la loi le dit, la loi sur les entités fédérales décentralisées. Les 100% des 40% à retenir la source. Aujourd'hui, c'est la rétrocession. Il y a des mécanismes qui envoient cet argent là-bas. Les mêmes mécanismes peuvent être utilisés pour que, lorsque l'argent arrive en province, qu'on donne aussi de l'argent aux entités territoriales décentralisées en utilisant les mêmes mécanismes qui sont utilisés par les pouvoirs centrales et les provinces. C'est ce qui n'est pas fait. On semble présenter les provinces comme si les gouverneurs de province et les assemblées provinciales voulaient faire le travail des ETD à lier les places de ces dernières. Alors que les deux entités font partie des deux niveaux de gouvernance. Chaque niveau a une libre administration et une autonomie administrative et financière.
Okay. On va revenir à vous, Maître Soubi. Là, on va voir d'abord au niveau des réactions, justement, en province. Là, au niveau de la province du Katanga, la seule qui, durant les deux années, c'est-à-dire 2008 et 2007, a procédé à la rétrocession de près de 60% du montant reçu du gouvernement central, sur plus de 25 milliards 800 millions de francs congolais. Le Katanga a rétrocédé à ses entités plus de 14 milliards, indique le rapport justement de la Cour des comptes cité par la Likoko. Et en réaction à ce communiqué, le ministre provincial du budget au Katanga, Christian Mwando Simba, qui répondait à notre consoeur Denise Mayo de Radio Okapi à Lubumbashi, que la province du Katanga alloue aux entités une rétrocession pour le fonctionnement et une autre partie des fonds est consacré à l'investissement. Mais alors, au niveau de Kinshasa, là, c'est des sources proches, là, je m'adresse à vous, Ernest Mpararo, vous qui êtes président de la Likoko. Au niveau de Kinshasa, lorsque j'ai parlé avec mes sources proches de la Cour de compte, en fait, parce que la personne a préféré parler sous anonymat, elle m'a dit que vous avez publié des chiffres, excusez-moi, sans commentaire, alors que pour le cas de Kinshasa, si on est un exemple, Kinshasa et le Sud Kivu, qui ont le bas de l'échelle avec 0%, les gouvernements provinciaux auraient donné de l'argent aux entités territoriales décentralisées, mais de plusieurs autres manières. Comment vous comprenez ça? Et lorsque nous avons reçu ces informations, nous avons pris contact avec le gouvernement provincial, avec le bureau de M. Kimbuta. Et on nous a dit que non, le gouvernement provincial investit tout cet argent sur la ville de Kinshasa. Nous leur avons répondu qu'il n'est pas de leur devoir d'investir à la place des communes, des territoires et des collectivités. Sur le même principe, si le gouvernement central pouvait investir à la place de la ville de Kinshasa, que ferait Kimbuta et son gouvernement et les députés provinciaux? Ils vont se plaindre que le gouvernement central viole la loi. C'est ainsi que les entités territoriales décentralisées se plaignent aussi, mais comme ils sont sous pression du gouverneur, si un bourgmestre se plaint, on les vire. Nous l'avons vécu au Kasaï oriental, où il y a des bourgmestres qui sont virés parce qu'ils voulaient demander sur cette rétrocession. Et l'honorable Kachala, qui est ici à Kinshasa, a été viré de l'Assemblée nationale parce qu'il voulait mettre une commission parlementaire pour aller voir comment est-ce que la gestion du gouvernement provincial du Kasaï oriental est faite. Voilà, ça c'est le cas qui se passe au niveau du Kasaï. Alors on revient encore à Kinshasa avec vous, Francis Bengama. D'abord, qu'est-ce que vous répondez lorsque Maître Soudi Alimassi dit que le véritable contrôle de gestion des finances, en fait, vous ne le faites pas, parce que c'est vous qui devez faire ce contrôle au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa notamment.
Bon, en ce qui concerne l'enveloppe des rétrocessions, d'abord, il y a eu un rapport. On nous a confirmé par le gouverneur de la ville, carte sur table, que le gouvernement central avait bloqué le fonds prévu pour les investissements. Donc, la rétrocession qu'on donne à l'hôtel de ville ne concerne que le fonctionnement et rubrique rémunération.
Donc, il n'y a pas d'investissement.
Il n'y a pas d'investissement.
Est-ce que c'est pour ça que le gouverneur, certains disent l'avoir vu remettre des houes, notamment aux communes?
Oui, ça c'est dans le cadre d'assainissement.
Est-ce que ça fait partie de la rétrocession?
Effectivement, ça fait partie toujours de l'enveloppe. Ça fait partie de l'enveloppe, puisque depuis janvier, depuis que l'Assemblée provinciale a eu l'information, que dans ce qu'on donne, il faut que la province donne aussi aux ETD.
Mais pourquoi est-ce que la province de Kinshasa notamment, et c'est le cas aussi de la province du Sud Kivu par exemple, pourquoi est-ce que les provinces ne peuvent pas donner de l'argent aux communes pour que les communes elles-mêmes puissent se choisir leurs besoins, décider de la manière dont elles peuvent utiliser cet argent?
Depuis le mois de janvier de cette année, depuis cette formation-là, l'ensemble provincial de Kinshasa maintenant contrôle si réellement l'exécutif provincial rétrocède. Et je vous confirme, puisque je suis le vice-président, c'est moi qui suis chargé des contrôles parlementaires, l'exécutif de Kinshasa a déjà rétrocédé trois mois déjà, ce qui concerne janvier jusqu'au mois de mai.
Et ça concerne quoi? C'est la rémunération ou c'est l'investissement?
L'investissement, c'est déjà bloqué au niveau du gouvernement central.
C'est à vérifier. On va écouter Maître Soudi là-dessus. Maître Soudi, peut-être que vous pouvez répondre là-dessus. Est-ce que c'est vrai?
Oui, l'investissement est bloqué. Malgré que le gouvernement central donne au gouvernement de province, n'a pas énorme. On envoie de l'argent dans la libre administration, c'est la province qui détermine ce qui pourra être fait. Je condamne encore cette manière de faire parce que nous avons un problème avec nos dirigeants. Cet argent-là, quand il arrive dans la caisse de la province, il y a aussi ce qu'on appelle les recettes provinciales. À l'époque, ce sont ces recettes provinciales-là qui servaient de frais de fonctionnement, ainsi de suite, de frais de rémunération. L'argent des rétrocessions devait être destiné aux dépenses d'investissement. Donc le pouvoir central n'envoie pas de l'argent pour dire, voilà, nous retenons l'argent d'investissement, nous vous envoyons l'argent de fonctionnement. Ce qui se passe réellement, c'est quoi? Il y a trop de dépenses de rémunération au niveau des provinces, et ça, c'est un peu partout. Et il y a une certaine complicité entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, où il n'y a pas un contrôle réel qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les bourgmestres et les chefs des entités des services centralisés font peur? Ils ne sont pas encore des élus. Ce sont des gens qui doivent avoir un programme propre à eux. Moi, j'ai vu par exemple dans la ville de Kinshasa. J'ai vu dans une commune, parmi les communes les plus sales.
En tout cas, presque toutes sont sales. Hein,
oui. Dans cette commune-là, les bourgmestres n'ont même jamais passé sur une avenue. Je ne veux pas citer la commune pour ne pas l'accuser.
On ne les connaît pas dans leur commune.
Vous les connaissez.
On ne les connaît pas dans leur commune.
Alors, on ne connaît même pas les bourgmestres. Ces bourgmestres n'ont même pas de planification propre à eux. Parce que l'argent des rétrocessions doit servir aux investissements, aux actions qui ont trait au plan local. C'est ça le développement local. Mais cela n'arrive pas tout simplement parce que, bon, le gouverneur de Port-Moi, j'ai suivi le gouverneur de la ville de Kinshasa à son dernier interview qui est passé. Il a dit tous les actes qu'il pose, il les pose dans les communes. Vous comprenez? Mais il n'est pas dit que lui doit poser. La commune a une libre administration, une autonomie administrative et financière. Même s'il n'y a pas encore d'organe élu, mais nous devons nous conformer d'abord à la loi. On doit rétrocéder et leur permettre de les suivre aussi dans leur mise en œuvre. Voilà. Ils n'ont pas respecté, qu'est-ce qu'ils ont respecté par rapport à leur propre planification pour le développement de la ville de Kinshasa. Voilà. C'est ça qu'on reprochait au pouvoir central, mais aujourd'hui, les provinces commencent à être reprochées par les États. Ça sera pire quand il y aura des organes élus.
Voilà. Alors, allons au Bas-Congo, parce que lorsqu'on regarde le même tableau de la LICOCO, en 2008, le Bas-Congo a rétrocédé 3% seulement, c'est-à-dire le gouvernorat a rétrocédé 3% seulement aux entités territoriales décentralisées, et lorsqu'on rentre en 2007, c'est 0%, un peu comme Kinshasa et le Sud Kivu. Alors, au niveau du Bas-Congo, d'après une dépêche de notre confrère Guillaume Géniapala, pour le Bas-Congo, ou du moins pour le chef de ZTD, donc entité territoriale décentralisée, qui ont eu connaissance de ce tableau de la LICOCO, et ceux qui n'ont pas eu ce document, ils disent que les chiffres fournis par la LICOCO sont difficilement contestables par rapport à la réalité sur terrain. Ces chefs de secteur, des cités et autres, se plaignent. Certains affirment ne rien recevoir. D'autres indiquent qu'ils reçoivent des sommes insignifiantes. Certains se posent la question de savoir si les motos que le gouvernement provincial du Bas-Congo leur a remises le 30 juin dernier rentrent dans le cadre de ces rétrocessions. Alors, ils ne comprennent rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là au niveau de la LICOCO?
Oui, monsieur le journaliste, vous devez comprendre quelque chose.
Oui, Ernest Mparao.
Oui. Depuis qu'on a installé les institutions provinciales, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, aucune province, aucune assemblée provinciale n'a contrôlé l'exécutif ou l'exécutif provincial. Ça, c'est le premier point. Mmh. Pourquoi ils ne contrôlent pas? Il y a trois facteurs. Un, les assemblées provinciales s'allient aux gouvernements provinciaux pour s'enrichir ou pour récupérer ce qu'ils avaient dépensé comme dépenses pendant les élections. Deux, ils sont, lorsqu'ils veulent contrôler, ils sont étouffés par la corruption. Les gouverneurs viennent, ils leur distribuent l'argent, ils gardent le silence. Et troisième, c'est l'avarice du seulement. Parce que c'est incompréhensif.
Vous les accusez, ils vont répondre, ils sont là, juste de citer pour eux.
Oui, il est bien merci, ils peuvent nous dire quand est-ce qu'ils
bon,
sont pas
tellement bien merci, mais le député pour eux.
Oui, il est député du Front.
Il n'est pas là parce qu'il est MLC.
Oui, mmh. Il peut nous dire aussi, aujourd'hui ici quand est-ce qu'ils avaient fait une commission parlementaire pour aller contrôler Kimbuta, ici à Kinshasa. Mmh. Aucune fois. Et lorsqu'il y a des contestations, on les étouffe. On les étouffe comment? En les achetant des jeeps, en les donnant des voyages, en les achetant des femmes, en donnant beaucoup de faveurs. Et cela, c'est anti-patriotique.
Voilà, il va répondre, Francis Mbengama, qui est vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous vois vraiment secouer la tête pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le président de la Ligue Coco.
Oui, d'abord, une petite correction. Je ne suis pas du MLC, mais je suis de l'opposition.
Parlez devant le micro.
Oui. Oui. Monsieur Ernest affirme qu'ici à Kinshasa, on n'a jamais contrôlé l'exécutif.
En tout cas, on ne le sent pas.
Oui. Sentir, peut-être oui, puisque...
Les effets, on ne les voit pas.
Vous ne voulez pas suivre les actions de l'Assemblée provinciale.
Mais si Kinshasa est sale, vous contrôlez le gouverneur en quoi? Vous le contrôlez?
Oui, contrôler le gouvernement provincial ne veut pas dire balayer la route.
Non, mais permettez quand même aux communes d'avoir leur argent et de peut-être de nettoyer.
Oui, j'espère que je me suis défendu ici. Aucun bourgmestre est venu se plaindre à l'Assemblée provinciale.
C'est parce qu'ils ont peut-être peur, comme l'a dit le président de la Ligue Coco.
Ils ont peur d'être virés. Ils ont peur d'être virés. Oui. Et nous aussi, nous avons décrié lorsqu'on avait nommé les bourgmestres pour mettre fin à 1+4. Il ne fallait pas nommer, il fallait passer aux élections, puisqu'on est déjà dans l'étape là démocratique.
Mais ce n'est pas ça qui vous empêche de contrôler le gouverneur.
Si, nous avons contrôlé au mois de novembre de l'année passée. Au mois de novembre de l'année passée, nous avons créé 6 commissions d'enquête. 6 commissions d'enquête.
Qui ont donné quel résultat?
Oui, les résultats, bon, il y a d'abord le départ d'un ministre, le ministre du Plan et Reconstruction. Ce ministre-là a été destitué de ses fonctions, puisque c'est lui qui était chargé de construire la ville. Son ministère était clair. Plan et reconstruction.
Vous l'avez viré et la ville est construite.
Non, bon, lorsqu'on l'a interpellé, on n'a pas senti vraiment qu'il y avait vraiment de travail.
Effectivement, il y a du travail.
Bon, on a nommé un autre ministre.
Et il y a du travail.
Nous sommes dans une nouvelle session. Dans une session que nous allons encore contrôler, vérifier si c'est lui qui est là. Et il fait bien son travail.
Nous allons au Kasaï oriental, là-bas, c'est un député provincial, Théophile Lunkamba, il est président de la commission de contrôle parlementaire sur les finances du gouvernement provincial de Kasaï oriental. Je vous l'ai dit, quand on regarde le même tableau, c'est 0,32% pour 2007, voilà. Et en 2008, le Kasaï oriental, il a 0,87% donc de son rétrocédé. Et là-bas, justement, ce député provincial lui dit que tant au gouvernement provincial qu'à l'Assemblée provinciale, on demande un peu de temps pour confronter les chiffres pour une éventuelle réaction. Mais la conclusion du rapport de la Ligue Coco, le gros de la rétrocession se consomme entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Alors, Francis Mbengama, est-ce que finalement, on va dire, comme l'a dit tout à l'heure ici Ernest Mpararo de la Ligue Coco, et que finalement c'est cette une sorte de complaisance entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif qui fait que bon, finalement, les communes, et ça c'est le cas de Kinshasa, mais c'est aussi un peu ailleurs, dans d'autres provinces, que ce sont des laissés pour compte.
Non, bon, à ce qui concerne la complicité, je vous confirme vraiment que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne vit que de moins de 5% de cette rétrocession. Et d'ailleurs, je viens de vérifier le chiffre ici. Le gouvernement a eu 14 milliards.
Devant le gouvernement.
Et l'Assemblée n'a eu que 111 millions. Ça ne représente même pas 5% de l'enveloppe.
Ouais, ça ne vous empêche pas d'avoir des jeeps, hein, pas Giro ou Prado, ça ne vous empêche pas quand même.
Non, il n'y a pas de jeeps, Les jeeps que nous avons, nous avons obtenu ça à crédit. Et vous pouvez vérifier auprès de nos banquiers. Chacun a signé un contrat individuel pour acquérir ces véhicules-là. Mais ce qui concerne maintenant les contrôles. Mais chaque chose en son temps. Il y avait d'abord un temps, on devrait observer ce que le gouvernement provincial faisait sur terrain. Il y a eu un budget, on a adopté le budget, et on doit laisser d'abord un temps que l'exécutif exécute d'abord ses budgets. Et après, il y a ce qu'on appelle réduction des comptes, donc les contrôles. Et nous avons commencé les contrôles. L'année passée, c'était au mois de novembre, et cette année, la première session a eu lieu le 15 janvier, la session de janvier. Nous avons contrôlé, il y a eu des rapports, il y a eu aussi des recommandations, et nous sommes maintenant à une nouvelle session. Et dans les calendriers, il y a aussi la réduction des comptes, donc le contrôle de l'exécution du budget 2009.
Donc, à vous entendre parler, tout se passe bien. Maître Soudlé Limassi, comment vous répondez?
Moi, je crois que nous devons maintenant mettre fin à cette théorie-là de croire que nous sommes toujours au début de la décentralisation et que pour mettre en pratique, on doit comprendre certaines fautes comme étant des erreurs. Ce n'est plus ce temps-là. Je crois qu'il faut compter le nombre d'années. On a déjà dépassé 2 ans de gestion. On doit avoir la maîtrise de ce. Moi, je voudrais rappeler aux entités territoriales décentralisées qu'ils ont droit à 40% de la part de l'État à caractère national allouée aux provinces. C'est-à-dire les 100% soit de la rétrocession ou des 40% qui sont retenus, qui seront retenus à la source. Ou ce qui arrive en province en vertu du mécanisme établi, ils ont droit aussi, eux, à quelque chose qui ressemble à 40% du 100% de ce fonds. Je ne sais pas si je peux comprendre.
Oui, mais Maître Soudi, est-ce que vous allez protéger, par exemple, des bourgmestres qui vont réclamer cette rétrocession et qui sont, mis à la porte par les gouvernements? Est-ce que vous allez les protéger au niveau du gouvernement central?
Le problème, c'est celui-là. Je crois que nous sommes en train de réfléchir parce que les lois sur la libéralisation des provinces et sur les ETD ajoutent une autre rubrique concernant l'inspection des finances qui peut exercer aussi ce type de contrôle en dehors des autres mécanismes constitutionnels ou législatifs qui sont prévus par nos lois et la Constitution. Je crois que nous sommes en train de réfléchir pour que nous puissions mettre en mouvement l'inspection générale des finances et permettre à ce que d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait la possibilité de mettre en accusation ou mettre à nu un comportement comme celui-là qui est aujourd'hui décrié et qui nous empêche d'aller vers le développement.
Voilà. On va poursuivre cette émission. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption accuse les gouvernements et assemblées provinciaux de s'emparer, le communiqué d'ailleurs de la LICOCO parle même de détourner tous les fonds rétrocédés par le gouvernement central au détriment des entités territoriales décentralisées. Comment les entités territoriales décentralisées justement peuvent-elles entrer en possession de tous leurs fonds de rétrocession? Nous en parlons, mais d'abord ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment les entités territoriales décentralisées peuvent-elles entrer en possession de tous leurs fonds de rétrocession? Pour le professeur Félix Wundo-TP Mako, la Cour des comptes ainsi que l'Inspection générale des finances sont là les deux moyens de contrôle prévus en cas de détournement des fonds par les autorités provinciales. Cela pourrait, selon lui, permettre aux entités territoriales décentralisées de rentrer en possession de tous leurs fonds. Le professeur Wundo-TP est joint par Guy Maté.
Si le gouvernement provincial détourne l'argent, d'après ce qu'on nous dit, eh bien, il y a un moyen de contrôle. Il y a d'abord l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est l'organe de contrôle de la gestion des finances provinciales. Donc, c'est l'Assemblée provinciale qui doit contrôler. Le gouvernement provincial doit se présenter devant l'Assemblée provinciale pour dire pourquoi l'argent qui est envoyé aux ETD, aux entités décentralisées, mais ça n'arrive pas. Ça, c'est un moyen de contrôle.
Dans le cas des CES, on remet en cause aussi les assemblées provinciales. On dit que ce n'est pas seulement les gouvernements provinciaux qui détournent, mais aussi les assemblées provinciales.
Eh bien, si tel est le cas, il y a la Cour des comptes et l'inspection générale des finances qui dépend du ministère des Finances et la Cour des comptes qui relève de l'Assemblée nationale. Et si tel est le cas, eh bien, on va engager la responsabilité de ces gens.
Voilà. Alors, Ernest Mpararo, je rappelle, vous êtes président national de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, la Ligue Coco. Qu'est-ce que vous pensez des éléments avancés par le professeur Bundaoui?
Oui, effectivement, son intervention est pertinente. La Cour des comptes, effectivement, doit jouer son rôle, étant donné que c'est un organisme externe aux assemblées provinciales. Pourquoi? Parce que, prenons le camp de Katanga, par exemple. Le président de l'assemblée provinciale est à la botte du gouverneur. Allons au site Kivu.
Attention, attention au mot que vous utilisez.
Oui, allons au site Kivu.
Est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez?
Bon, je corrige un peu.
Oui.
L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont des alliés.
Mmh.
Allons à Kinshasa, la même chose. Nous partons au site Kivu, la même chose. Ce qui fait que, moi j'ai un rapport de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et dans ce rapport, le gouvernement provincial du Kasaï oriental est clean. Donc, il n'y a pas de faute. Alors que nous possédons des informations où les gouverneurs Ngoï Kassavi financent des députés provinciaux pour aller exécuter des projets dans leur territoire, dans leur collectivité.
C'est des accusations graves, non?
Non, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, je lui ai donné des chiffres et des noms de ces députés provinciaux, il a accepté. Donc, nous disons effectivement que la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances doit descendre sur terrain pour auditer toute la gestion des gouvernements provinciaux. Comme ça, nous avons une idée sur comment est-ce que nos provinces sont gérées. Parce que nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui sort du Néa, demain, il a 5 maisons ici à Kinshasa. Il a eu ça où? Pendant 2 ans, les députés provinciaux, des ministres provinciaux ont déjà un salaire pour s'acheter des maisons.
Donc ça paye, quoi.
Ah, effectivement, c'est ainsi que nous disons. La Cour des comptes doit avoir des moyens. L'Inspection générale des finances, on doit leur donner des moyens. D'ailleurs, je demande au gouvernement maintenant de stopper d'envoyer cet argent en province. Qu'on envoie d'abord les auditeurs de la Cour des comptes, les inspecteurs des finances en province. Ils auditent tous les comptes des gouvernements provinciaux. Et si les provinces sont clean, à ce moment-là, on peut envoyer. Mais aussi, on tente. Ils détournent des millions de francs congolais. Comment est-ce qu'on va encore leur envoyer de l'argent?
Voilà, il a Dieu donné, c'est Dieu, pardon, Moulumba, lui l'étudiant à l'université de Mbandaka, province de l'Équateur. Je crois qu'il réfléchit comme vous. Il pense que le gouvernement central doit mettre en place une commission de suivi dans chaque province pour voir qui détourne l'argent des entités territoriales décentralisées. Kakuli, c'est fou. Gustave nous écrit de Kalemie au Katanga. Il demande pourquoi, pardon, les gouvernements et assemblées provinciaux détournent-ils les fonds rétrocédés aux ECD pendant qu'ils s'en prennent au gouvernement central? John Moulamba de Kindu au Maniema, le gouvernement et les députés provinciaux travaillent pour leur propre compte. Il donne l'exemple du territoire de Shabunda au sud Kivu, où on ne connaît pas la signification du mot rétrocession, car, dit-il, ce territoire n'a jamais bénéficié de quelque chose dans ce sens. Alors, comment vous répondez, Francis Mbengama, à tout ce que nos auditeurs viennent de dire? Bien sûr, vous pouvez revenir aussi à ce que la Nikoko a dit avec Ernest Mpararo.
D'abord, en ce qui concerne la confirmation que l'ensemble provincial, soit les ensembles provinciales détournent aussi, là je m'inscris en faux, puisque, exemple ici à Kinshasa, l'ensemble provincial de Kinshasa ne vit que de sa petite dotation. Donc la dotation de l'ensemble provincial de Kinshasa ne dépasse pas 5% de ce qu'on donne au gouvernement provincial.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Ernest Mpararo qu'il faut, même un auditeur l'a dit, Dieu Moulouma, qu'il faut qu'il y ait une commission qui pourrait essayer de tirer cette affaire au clair pour voir qui détourne l'argent justement qui revient aux entités territoriales décentralisées?
Oui, effectivement, je fais partie de l'organe de contrôle, je ne peux jamais refuser les contrôles.
C'est un organe de contrôle qui ne semble pas faire son travail.
Non, nous avons laissé le temps, l'année passée, on a commencé à contrôler. D'ailleurs, cette année, puisque je n'ai pas amené le calendrier, nous avons inséré d'abord l'audition des rapports de gestion du gouvernement de la ville, comment il a géré, et après, nous allons créer une commission d'enquête.
Voilà.
C'est prévu dans le calendrier.
Voilà, maître se dit, comment aider ces entités-là à rentrer en possession de leur dû?
Moi, je crois que au-delà des mécanismes que le professeur Wondwa a évoqué bientôt, il faudra que la loi financière qui va déterminer les modalités de retenir à la source des 40% puisse prévoir des mécanismes solides qui permettent aux entités territoriales décentralisées de toucher directement ce qui leur est dû.
Mais là, ça
le développement local,
oui,
c'est à la base.
Oui. Mais ça veut dire...
Le développement local, ce n'est pas au niveau de la province. La province, c'est un niveau intermédiaire.
Voilà.
Il faut que ces mécanismes-là soient coulés dans le monde. Parce qu'on peut faire des commissions aujourd'hui, demain, mais là, nous sommes en face de certaines réalités. C'est le niveau central qui doit d'abord commencer par faire respecter la constitution et les lois. Le principe de libre administration ne demande pas qu'il y ait beaucoup d'ingérence pendant qu'il y a des organes prévus pour exécuter ces contrôles. Les assemblées provinciales, c'est vraiment malheureux que toutes les assemblées provinciales n'ont pas pu faire leur travail jusqu'aujourd'hui. Ils se font en allier des gouvernements provinciaux au lieu de les contrôler exactement comme il le fallait. Donc, pour moi, au-delà des mécanismes prévus par la Constitution et les lois qui concernent la Cour des comptes, ainsi que l'Inspection générale des finances, parce que l'Inspection générale des finances, après avoir fait son contrôle, doit présenter son rapport au gouvernement, le gouvernement n'a pas d'autre moyen que de mettre peut-être en accusation les responsables de ces détournements, ainsi de suite au niveau de la justice. Mais s'il y a des mécanismes clairs au niveau de la loi financière qui définit les mécanismes de perception de cet argent-là par les ETD, ça aura résolu tout le problème. Je donne un exemple.
Oui.
Une commune qui va directement toucher son argent à la succursale de la Banque centrale de cette province-là, vous pensez qu'il y aura quelque part où on va bloquer cet argent? Je ne pense pas.
Oui. Mais ce que vous avancez là, ça risque de prendre du temps, le temps que cette loi justement, qui d'après mes informations, traînerait encore au Parlement.
Oui, mais ça serait un mécanisme solide. Mais en attendant, on peut prendre des mesures transitoires. Ces mesures transitoires ne sont pas des mesures solides pour faire face à cette gangrène. Oui. C'est un problème réel. Là, notre société est caractérisée par un certain nombre de comportements, dont celui que nous sommes en train de débattre aujourd'hui.
Mmh.
Nous pouvons tout faire s'il n'y a pas un mécanisme légal, physique, pratique, qui puisse permettre à ce que les animateurs des ETD puissent être à l'abri de cette perception-là, à la volonté des gouverneurs de province, on n'aura pas résolu le problème.
Oui, mais quand vous parlez des mesures transitoires, je suppose que c'est en urgence, et là, Maître Soudi, je rappelle, vous êtes quand même expert au ministère de l'Intérieur et c'est au niveau du gouvernement central. Qu'est-ce qui peut être fait en urgence pour, en tout cas, que les entités territoriales puissent retrouver leur argent?
Le ministre des Finances, qui est l'ordonnateur principal du gouvernement central, et le ministre du Budget n'ont jamais cessé d'envoyer des notes circulaires au gouverneur de province dans ce sens. Vous croyez que ça ne se fait pas? Donc, il y a même des commissions qui statuent sur les modalités actuelles avant la retenue à la source des 40%. D'ailleurs, on ne les dit pas à tête. Ces modalités-là, si vous faites les calculs de l'argent que les provinces sont en train de recevoir, ça va au-delà de 38% de rétrocession. Donc, il y a des provinces qui réclament en vain les 40%, alors qu'ils sont déjà à la hauteur de 38% de perception de fonds qui sont dit en termes de rétrocession.
Oui, mais non,
vous comprenez.
Oui, mais non.
Alors, quand ils ont cet argent-là, ils doivent aussi respecter les dispositions légales qui leur obligent de prendre les 100% de ces 40% et de donner les 40% aux entités personnelles décentralisées. C'est là que le développement commence.
Oui, Ernest Pararo, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Oui, comme les mesures transitoires, nous, à la LICOCO, nous disons, 1. Le gouvernement central, le ministre des Finances, le ministre du Budget doit d'abord stopper l'envoi de cet argent aux provinces. 2. On met en place une équipe de contrôle pour aller contrôler la gestion de cet argent là-bas. Et 3. Dès que la province est clean et n'a pas de soupçon, là, on lui donne l'argent. Ou bien, comme le maître Soud l'a dit, on crée des comptes auprès des banques centrales du Congo dans chaque province, où on invite chaque commune à aller prendre son argent sur place là-bas. Comme ça, on éviterait que cet argent enrichisse les uns et approuvisse les autres.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Francis Mbengama? Est-ce que ça vous arrange, vous qui êtes président, vice-président pardon, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Est-ce que ça vous arrange, toutes ces mesures-là?
Arrêter de donner, ça c'est pas bon, parce que normalement les institutions doivent fonctionner.
Ouais, vous allez fonctionner quand vous ne pensez pas aux autres, aux entités territoriales décentralisées.
Il faut faire la part des choses. Hein. Nous ne sommes pas l'exécutif. Moi, je fais partie de l'Assemblée provinciale, donc je ne suis mêlé en rien pour la dispatching de ça.
Non, vous êtes chargé du contrôle, hein, ça on le rappelle.
Chargé du contrôle.
Ouais.
Et nous acceptons les contrôles. Nous acceptons les contrôles. On peut envoyer le ministère des Finances peut envoyer les auditeurs, tout comme le cours des comptes. Nous acceptons les contrôles. Mais à ce qui concerne la suspension de financement, là, je suis contre, puisque dans cet argent-là, on parle de fonctionnement, on parle aussi de rémunération. Et à ce qui concerne l'ensemble provincial, les assemblées provinciales n'ont pas de recettes propres. Les assemblées ne vivent que de leurs dotations, leurs cagnottes.
Mmh.
Donc, on doit donner, mais ce que je peux appuyer, M. Ernest a ajouté encore quelque chose que je peux appuyer.
Oui.
En tout cas, on peut décentraliser. Même au niveau du gouvernement central, on peut déjà préparer les enveloppes des EPD, donc des communes, des
entreprises. Comme ça, elles peuvent elles-mêmes
ouvrir des comptes pour ces EPD-là.
Est-ce que vous pouvez proposer ça à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour que le gouverneur Kimbuta le fasse?
Oui, nous avons proposé chaque mois, lorsque le gouvernement central envoie des rétrocessions, que le gouvernement central précise dans cette enveloppe-là combien le gouverneur va donner aux EPD et il écrit aussi à l'ensemble.
Oui,
nous avons donné autant,
oui.
L'enveloppe des EPD c'est autant.
Non, mais maintenant vous êtes au niveau provincial. Est-ce que vous ne pouvez pas faire pression sur le gouverneur Kimbuta pour que maintenant, l'argent qu'il donne aux ETD, donc entités territoriales décentralisées, que vous puissiez peser pour que ces entités puissent récupérer leur argent sans problème.
Oui, effectivement, je vous ai dit depuis janvier, lorsqu'on a eu l'information auprès du Premier ministre, nous avons fait pression et aujourd'hui, je mets à défi n'importe quel boucoumestre, il peut venir me contredire ici. Chaque boucoumestre a un numéro, donc il a un compte bancaire. Que les gouverneurs versent quelque chose. Et je vérifiais, ils ont déjà perçu 3 mois de rétrocession depuis qu'on a su cette information.
C'est à peu près combien, puisque vous avez l'information?
Oui, bon, je ne suis pas là pour dire le montant.
Ah bon? C'est un tabou?
Oui, bon, effectivement, l'ICOCO doit aussi vérifier les chiffres, puisque moi, ce que je peux donner ici, c'est peut-être l'exercice qu'il m'a donné, et ça ne peut pas peut-être correspondre avec ce que les boucoumestres perçoivent, et aussi. Ils ne veulent pas dénoncer, parce qu'il y a des fois, nous descendons sur terrain pour demander si réellement ils bénéficient de cette rétrocession. Il y a des boucoumestres qui ne disent pas la vérité.
Voilà. Il y a des auditeurs qui nous écrivent. Pichou Mbouala nous écrit de Matadi, province de Bas-Congo. Le rapport de cette ONG ne me surprend pas, surtout concernant Kinshasa. Voilà. Matadi parle de Kinshasa. Voyez comment la ville se détruit davantage suite au manque d'un leadership efficace à sa tête. Cette ville a besoin de gouvernants consciencieux avec un programme cohérent. Claveur Kassa de Goma, au Nord Kivu, pense qu'il est difficile au gouvernement central de punir, car lui-même est à la base de ces faits lorsqu'il crée des retards et des mécanismes lourds pour ses fonds. Abbé Alain Lomanja de Kinshasa pense que la difficulté actuelle provient aussi du fait que, contrairement à la décentralisation politique dont jouissent les provinces, la décentralisation administrative n'est pas encore effective, faute d'élections locales. Dans ce système hybride, dit-il, où les institutions politiques des provinces se targuent de la légitimité des élections, est-ce que la Cour des comptes peut efficacement faire son travail et rétablir les ETD dans leurs droits? Il ne reste plus beaucoup de temps, juste en quelques secondes. Peut-être on va commencer par vous, Ernest, vraiment en quelques secondes. Hein.
Oui,
c'est pratiquement le dernier mot, quoi.
Oui, oui. En conclusion, nous appelons la clairvoyance du chef de l'État pour qu'il prenne des mesures comme celles qu'il a prises contre les magistrats. Il ne faudrait pas qu'il s'arrête aux magistrats. Il doit pousser la logique très loin. Nous lui avons déjà donné de la matière, c'est à exploiter et faire révoquer et demander à l'AMP, aux députés de l'AMP qui sont majoritaires dans chaque province, de faire démettre tous ces gouverneurs prédateurs.
Voilà, merci. On me signale qu'il y a beaucoup de réactions qui tombent, et même le gouverneur du Kassai Oriental serait en train de réagir en ce moment. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Alors, un mot aussi avec vous, Francis Mbengama, juste en quelques secondes pour terminer cette émission.
Oui, je profite de cette occasion pour rappeler aussi à mes collègues députés, voilà comment nous sommes salis. Chaque député doit s'assumer, en tout cas ce qui concerne les contrôles parlementaires.
Voilà, un mot, dernier mot pour Maître Soudi.
Je rappelle encore une fois les assemblées provinciales, parce qu'avant que la Cour des comptes ne vienne, avant que l'Inspection générale des finances n'arrive, la mission de contrôle de l'action des gouvernements provinciaux revienne aux assemblées provinciales. Donc, elles doivent cesser d'être les alliés dans le mal des gouvernements provinciaux, mais elles doivent jouer pleinement leur rôle pour que les nations, les habitants de leur province, puissent leur témoigner cette reconnaissance un jour. Parce que si on continue comme ça, oui, malheureusement, on va rentrer dans la centralisation.
Voilà. Et là, nous signalons que le gouverneur Ngolka Sanji dit n'avoir jamais été contacté par Ernest, président de la LICOCO. C'est la fin de cette émission. Malheureusement, Ernest, vous ne pouvez pas réagir. Dieudonné Nyangasa était à la technique, avec comme héros dans l'ombre Guy Maté, appuyé par Kéline Kouté, Martin Sebujango, la coordination, Jean-Claude Toumba Kamanga devant ce micro.